Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité visé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Les pétitionnaires dénoncent une gestion jugée inefficace de la situation sécuritaire marquée par la recrudescence des actes criminels, notamment à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Bonne nouvelle dans ce journal, une vaste campagne de chirurgie gratuite en faveur des enfants souffrant des malformations intestinales se poursuit à l'hôpital de Kalembelembe à Kinshasa. Jusque là, plus de 35 enfants ont déjà été opérés. Des violents affrontements opposent depuis mercredi 8 avril les rebelles de l'FC M23 aux combattants Wazalendo dans les territoires des Massissi et des Walikale au nord Kivu ainsi qu'à Calais dans le sud Kivu. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé cette escalade de combats dans cette partie du pays. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité est visé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. L'initiative est portée par les députés Ladi Yango Tikala, élu de Kisangani dans la Tshopo et membre de l'Union Sacrée Plateforme Politique au Pouvoir. Il a déposé sa motion ce lundi affirmant qu'elle a recueilli plus de 50 signatures. Les pétitionnaires dénoncent une gestion jugée inefficace de la situation sécuritaire marquée par la recrudescence des actes criminels, notamment à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes du pays. Selon l'initiateur, cette insécurité persistante révèle des failles dans la coordination des services et une incapacité à répondre aux attentes de la population. L'a dit Yango Tikala au micro de Grace Amzati.
Vous êtes journaliste. Il y a quelques mois, un de vos collègues avait été kidnappé, journaliste à la RTNC, tué. Deuxièmement, un collègue à moi, médecin, avait été kidnappé, tué, docteur Nicole. Troisièmement, vous vivez à Kinshasa ou ailleurs? Il y a braquage, à main armée, pendant la journée. Vous connaissez les enquêtes qui sont faites? Vous connaissez ce qui a été fait par rapport à la condamnation ou au traitement de ceux qui ont été arrêtés? Et chaque jour qui passe, le Congolais vit en insécurité. Chaque jour, que dire? Doit-on rester silencieux, garder notre langue dans la poche parce que nous sommes de l'Union Sacrée? Non. Lorsque le président de la République vous fait confiance, c'est justement pour pouvoir exécuter sa vision. C'est prioriser le peuple d'abord. Le peuple a besoin de quoi? Le peuple a besoin de la circulation libre. Maintenant là, on ne sait même plus circuler librement pendant la journée dans la ville de Kinshasa. Et nous avons retiré la confiance qu'il daigne, dans les 48 heures qui suivent, déposer sa démission président de la République.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette motion devra faire l'objet d'un débat en plénière, au terme duquel les députés décideront par vote du maintien ou non du ministre à son poste. Parlant toujours de l'insécurité, en Ituri, la rentrée scolaire après les vacances des Pâques est fortement perturbée dans plusieurs zones en proie de l'insécurité. Des dizaines d'écoles restent fermées, notamment dans les territoires de Mambasa et Djougou. En cause, les exactions des rebelles des ADF et les opérations militaires contre la milice RP qui ont provoqué des déplacements massifs de population. La société civile locale appelle le gouvernement à restaurer l'autorité de l'État pour sauver l'année scolaire des milliers d'enfants privés d'éducation. Isaac Remoyo paie pour les détails.
Plusieurs écoles situées dans des zones récemment attaquées par les ADF depuis le 8 mars dernier n'ont pas rouvert leurs portes ce lundi. C'est le cas notamment à Bandegaïdo, Bafokoa, Babutambili ou encore Ndouye. Les routes nationales numéro 4 et 44. Dans ces localités, élèves et enseignants ont tous fui vers des zones jugées plus sûres. Même situation à Nyanya Centre et pourtant lié d'accueil des milliers de déplacés. Certaines écoles ne fonctionnent pas, les parents ayant aussi quitté la zone. Selon la société civile du Congo, les cours avaient déjà été suspendus avant les vacances des Pâques en pleine période d'examen de second semestre à raison des attaques des ADF. Cette structure alerte, l'année scolaire risque d'être compromise pour des milliers d'enfants si des mesures urgentes ne sont pas prises pour rétablir la sécurité dans la région. Marie-Noël Anotane.
Au gouvernement de prendre au sérieux la situation des ADF, de mettre des moyens. De la même façon, on est en train de traquer les rebelles des M23 de l'autre côté, de façon à libérer les différents villages pour que les enfants reprennent l'école.
Dans les territoires des Djougou également, la situation est préoccupante. Certaines écoles situées vers Boulé et Fataki ne sont pas non plus opérationnelles depuis ce lundi, toujours à cause de l'insécurité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons dans la région pour parler de cette bonne nouvelle. 4 personnes enlevées il y a plusieurs mois par des éléments armés de la CRP, Convention pour la Révolution Populaire, ont été retrouvées grâce à l'intervention conjointe de la MONUSCO et des forces de sécurité. Ces rescapés ont été remis samedi par les casques bleus de la MONUSCO aux autorités coutumières locales ainsi qu'aux responsables des forces de défense et de sécurité congolaises. Elles témoignent aujourd'hui des conditions difficiles de leur captivité. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Un jeune, une femme avec son enfant ainsi qu'un policier figurent parmi les personnes qui viennent de recouvrir les libertés après plusieurs mois de captivité. Selon les autorités locales, ces victimes avaient été enlevées de nuit par des éléments de la rébellion CRP avant d'être transférées dans différents bastions du groupe armé, notamment dans les zones de Boulé et Liri. Durant leur détention, elles affirment avoir subi des tortures et diverses formes de menaces, parfois de la part de personnes avec qui elles avaient vécu dans la communauté et qui aujourd'hui se retrouvent dans le rang des rebelles. Une situation que les autorités qualifient de regrettable. C'est la faveur des opérations militaires menées par les FADC dans ces zones que ces otages ont pu profiter d'une brèche pour s'échapper et regagner la communauté dans le secteur de Walin de Piti. Alertée, la MONUSCO est rapidement intervenue pour les prendre en charge. Aujourd'hui, ces rescapés sont sains et saufs, suscitant un soulagement au sein de la communauté et des autorités locales. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilet, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, la ministre belge de l'asile et de la migration arrivée en RDC pour une visite de travail sur des questions des migrations entre la RDC et la Belgique a confirmé ce lundi que le nombre de Congolais ayant demandé l'asile en Belgique a beaucoup augmenté ces derniers temps. Dans la conférence de presse que Anneline Van Bossoit a tenue à l'ambassade de Belgique à Kinshasa, elle a parlé de plus de 450 demandes d'asile enregistrées pendant les premiers trimestres de cette année 2026, tout comme ces statistiques étaient de 2500 l'année dernière. La membre du gouvernement belge a qualifié le nombre de ces demandes de très élevé et les raisons de ces asiles d'irrécevables par la Belgique. Anneline Van Bossoit promet que ces demandes seront rejetées et les demandeurs invités à retourner en RDC. La ministre belge de l'asile et de la migration précise toutefois que les Congolais restent les bienvenus en Belgique et que les autres visas réguliers d'entrée en Belgique restent accessibles à tout demandeur. Écoutons à ce sujet Anneline Van Bossoit au micro de Dona Madimba Mbaya.
J'ai vu les chiffres et c'est plus que 80% des demandes de visa est octroyée. Voilà, je pense que ça démontre que les gens qui suivent les procédures correctement vont obtenir un visa. Je comprends que les gens voudraient bien chercher un meilleur avenir, mais l'asile n'est pas là pour des gens qui cherchent un meilleur avenir pour des raisons économiques ou financières, par exemple. Les conditions pour pouvoir obtenir le statut de réfugié sont très clairement définies dans la Convention de Genève, et des raisons économiques ou financières sont pas dans la Convention de Genève. C'est très clairement indiqué, c'est pour des personnes qui risquent des persécutions individuelles, qui craignent pour leur vie, et donc pas pour des raisons économiques et sociales. Et je pense que c'est important de souligner ça.
Une vaste campagne de chirurgie gratuite en faveur des enfants souffrant de malformations intestinales se poursuit jusqu'au 17 avril à l'hôpital général de référence de Kalembelembe dans la ville de Kinshasa. Cette initiative a déjà permis d'opérer plus de 35 enfants avec un objectif d'au moins 50 patients pris en charge grâce notamment au soutien de la fondation Villemarque. Dans un contexte où l'accès à la chirurgie spécialisée reste limité pour de nombreuses familles, cette campagne apporte une réponse concrète à un besoin urgent de la santé publique. Pour de nombreux parents aux moyens modestes, ces opérations représentent une chance précieuse de sauver la vie de leurs enfants et d'améliorer durablement leur quotidien. Reportage Nancy Tambo.
Lancée le 29 mars dernier, cette campagne vise non seulement à réaliser des interventions parfois complexes, mais aussi à sensibiliser à l'importance du diagnostic précoce. À Kalembelembe, plusieurs enfants ont déjà été pris en charge gratuitement. Docteur Damien Kisimba, l'un des organisateurs, explique les objectifs de cette campagne.
L'objectif, c'est sauver le maximum de vies et surtout aider les plus démunis qui ont des enfants malades mais qui ne savent pas comment les faire soigner.
L'un des médecins chirurgiens, Docteur Dodo Noël, explique les types de malformations prises en charge ainsi que les risques liés aux interventions.
On opère plus les enfants qui présentent une malformation anorectale, c'est-à-dire les enfants qui sont nés sans anus. Il y a des risques post-opératoires qu'on peut avoir. Nous prenons précaution pour éviter toutes ces complications.
Du côté des parents, l'initiative est largement saluée.
Nous l'avons bien accueillie pour la santé de nos enfants. Ils ont été malades pendant longtemps, mais grâce à la campagne, on leur a fait des interventions qui se sont bien passées et nous avons constaté un changement.
À Kalembelembe, cette campagne redonne bien plus que la santé. Elle ravive l'espoir de toute une communauté.
La société américaine Cobalt Metal Company lance des vastes recherches pour trouver du lithium en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un métal très recherché, utilisé notamment dans la fabrication des batteries de téléphones et de voitures électriques, rapporte l'agence de presse américaine Bloomberg. Jocelyne Moussaopoune ne nous en dit plus.
Ce projet intervient 4 mois après la signature d'un partenariat minier entre la RDC et les États-Unis qui facilite l'arrivée des investisseurs américains dans le secteur des minerais du pays. Soutenu notamment par Bill Gates et le fonds Andersen Horowitz, l'entreprise a déjà obtenu 13 permis dans le sud-est du pays pour mener ses recherches. Selon son directeur général, Kurt House, à environ 50 millions de dollars seront investis d'ici 2027. Pour localiser les gisements, Cobalt prévoit d'utiliser des technologies modernes et même l'intelligence artificielle sur une très grande zone. Malgré ses importantes richesses en cobalt et en cuivre, la RDC reste encore peu explorée selon l'entreprise. Par ailleurs, Cobalt s'intéresse aussi au lithium de Manono, mais des discussions sont en cours avec la société australienne AVZ Minerals LTD, dont les droits ont été retirés. Dans cette même région, le groupe chinois Zijin Mining Group prévoit également de lancer une grande mine de lithium.
Derrière chaque sac de charbon vendu à Beni, il y a un long circuit souvent invisible. Le charbon vient des zones forestières autour de la ville où les arbres sont coupés pour alimenter une demande toujours plus forte. Vous suivrez la série des Radio Capi consacrée à la fabrication du charbon de bois à Beni au Nord Kivu et ses conséquences sur l'environnement. Dans ces deuxièmes numéros, immersion au cœur de cette filière. Reportage Martial Papimoukeba.
Chaque jour, vélos, motos et camions entrent dans Beni chargés de sacs de charbon. La marchandise vient des villages et des zones forestières environnantes. Sur un point de vente, cette vendeuse explique.
Nous vendons en gros et en détail. Les charbons de bois viennent des champs vers Mayangose. Nous vendons entre 5 et 6 sacs par jour.
Une activité essentielle pour de nombreuses familles, mais peu encadrée. Dans les zones de production, les arbres sont souvent coupés sans contrôle. Un habitat témoigne.
Tout vient de la forêt, des champs. On peut aménager d'utiliser les courants. Ça coûte aussi très cher avec la situation actuelle dans notre ville.
Résultat, la production de charbon continue de s'étendre avec des conséquences directes sur les forêts. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Capi.
Revenons à Kinshasa avant d'aller plus loin. Plus de corvées de lessive, plus de soucis de coupure d'eau ou d'électricité pour laver vos vêtements. C'est désormais possible à Kinshasa. Sur l'avenue ex-24 novembre, juste à côté de la maison Schengen, la station service Engen s'est transformée en un lieu de rendez-vous inédit. Une laverie moderne y a ouvert ses portes il y a 2 mois. Une première dans la capitale. Une nouvelle laverie moderne vient d'être installée. Alain Irung est passé par là. Voici son reportage.
Dans cette laverie, les machines tournent à plein régime. Étudiants, cadres ou mères de famille, les clients affluent. Dans la file d'attente, les sourires sont larges car au-delà du gain de temps, C'est le portefeuille qui respire. Témoignage d'un étudiant.
J'ai amené des pantalons, des tissus, genre de chemise. Il y a un peu du tout en fait.
Pourquoi vous amenez les habits si vous n'avez pas le temps? Vous êtes très occupé.
On vit en communauté, on est des garçons. Je ne vis plus chez les parents. L'université et tout, ça prend un peu du temps.
Cette laverie, ça vous facilite la tâche en fait?
Ça nous facilite un peu la tâche par rapport à d'autres choses.
De son côté, le gérant explique la procédure et donne des précisions sur les prix. Des Kassilunga.
Vous venez avec vos habits, on a la balance, on doit peser. Quand ça va faire 9 kilos, ça va contenir dans cette petite machine. Là, c'est 9 kilos. Et puis vous allez payer 13 dollars pour un service complet, nettoyage, plus séchage. Dans moins d'une heure en fait, dans 45 minutes. Vous avez vos habits à sec.
Une petite révolution technologique et sociale qui semble déjà avoir conquis son public. Si vous passez par le centre-ville, vos paniers de linge sale ont désormais une adresse.
Actualité internationale.
Le pape Léon XIV est en Alger, une visite hautement symbolique puisque c'est la première d'un souverain pontife dans ce pays à majorité musulmane, terre natale de Saint-Augustin, l'un des plus grands penseurs chrétiens. Aussitôt arrivé, le pape a rendu hommage aux victimes algériennes de la guerre contre la France au monument des martyrs de l'indépendance. Il a dit sa joie d'être en Algérie, un pays avec lequel ses liens sont forts. Il a achevé cette première journée par une visite à la basilique Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs d'Alger pour une rencontre qui a rassemblé les chrétiens et les musulmans. Au Bénin, Romuald Ouadani remporte la présidentielle avec 94% des suffrages exprimés. Les résultats provisoires du scrutin des dimanches ont été annoncés par la Commission électorale nationale autonome, SENA, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2026.
L'invité.
De violents affrontements opposent depuis mercredi 8 avril les rebelles de l'FC-M23 aux combattants Ouazalendo dans les territoires de Masisi et de Walikale au nord Kivu, ainsi qu'à Calais dans le sud Kivu. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé cette escalade des combats dans cette partie du pays. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Fiston Missona, vous êtes président territorial de la société civile Force Vive de Walikale au nord Kivu. Vous êtes dans cette région. En plus des informations que nous venons de suivre dans ces reportages de Benjamin Moudoumbi, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter en ce qui concerne la situation d'aujourd'hui, lundi, dans cette zone de combat qui couvre le territoire de Masisi, quelques localités de Walikale, au nord Kivu et de Calais au sud Kivu?
Il faut noter que cette même situation est persistée dans plusieurs territoires en forêt du nord Kivu, notamment dans les territoires au sud de Masisi, précisément à Buto, et les M23 continuent à attaquer, notamment les populations civiles et des braquages qui sont signalés aussi dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Nyiragongo, territoire de Masisi, Walikale y compris, au nord Kivu également, comme vous l'avez annoncé, au sud Kivu précisément du côté de Ziralo. Et comme vous l'avez toujours annoncé, vous avez toujours suivi dans les réseaux sociaux que l'M23 s'est retiré. Ça, nous considérons que c'est une diversion. Il se délocalise d'un côté pour s'abriter. De l'autre côté, comme vous l'avez suivi, que l'M23 est en train de se retirer dans les territoires de Lubero, dans les territoires de Rutshuru et une partie aussi dans les territoires de Walikale. Mais pourtant, il continue à se renforcer en hommes et en munitions dans les territoires de Walikale et Masisi et Calais. Et tout cela, c'est pour chercher à tout prix voir là où ils peuvent trouver les couloirs pour pénétrer justement le territoire de Walikale en passant par Ziralo. Et là, il va chuter dans le groupement Waloa Luanda, précisément dans le village qu'on appelle le Surungidiku à Rombonor. Et là, il va pouvoir couper les liaisons en pénétrant la route nationale numéro 3 à Rombonor et qui sépare le territoire de Walikale et le territoire de Masisi. Et là, ça va couper les liaisons et justement, que ce soit nos éléments FARDC ou Azalom qui seraient au niveau de Bulambika qui ont barré la route du côté du parc national de Kaoutibiega.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer l'escalade des combats entre l'AFC-M23 et les Ouazalendo dans les territoires de Masisi et de Walikale au Nord Kivu, ainsi que de Calais au sud Kivu?
Ces affrontements tels que rapportés démontrent que les M23 et l'armée rwandaise poursuivent leur objectif militaire, et là sur deux axes. Vous avez bien parlé de Poëti, mais derrière Poëti, l'armée rwandaise, l'M23, vise à prendre le contrôle de Pinga. Pinga qui est un carrefour militaire stratégique pour couper tout rapport dans ces zones vers le Rutshuru, vers le Masisi, mais également par Kalehe, Zigalo. Le M23 voudrait tenter de faire un forcing vers des agglomérations à territoire de Kalehe et même à Kabare pour frayer un chemin vers Bunyakiri. Dans l'espoir que si il parvient à prendre le contrôle de Bunyakiri, et là, il a une route directe qui, dans le cas où le processus de Doha vont bloquer, il y a une route qui leur permet de prendre la direction de Kisangani et ainsi ceux qui sont à Walikale pourront se retrouver à Neto. Donc, l'M23 fait le talk and fight. Les offensives se poursuivent sur le terrain et entre-temps, on parle à Doha avec cette diversion présentée par les emplois de retrait de Lubero.
Merci Grégoire Mirindi Tcharangabo. Vous êtes député national honoraire. Vous êtes président du parti politique dénommé Juste Patriote pour la République, JPR en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes également notable de la province du Sud Kivu. Et à votre avis, que faut-il pour parvenir à la désescalade dans cette région?
Je crois que d'abord, il y a des instruments juridiques qui existent. Parce que, comme je l'ai dit, le droit international est du côté de la RDC. Et il y a aussi l'accord même de Washington. Je crois qu'il faut peut-être des rencontres pour que les partis, surtout ceux qui veulent nous aider. Parce que si les États-Unis se sont intéressés à la question, alors il ne faudrait pas que le processus que les États-Unis prennent à bras le corps puisse tomber alors qu'ils nous rassuraient. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la résolution 2373 jusque-là souffre. On n'en parle pas tant, on parle beaucoup plus des États-Unis que cette résolution, alors que c'est cette résolution qui engage la communauté internationale. Et moi, mon point de vue par rapport à ça, il faut revenir à cette résolution-là.
Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, préparé pour vous par Jude Mister Bilan d'Ankuma et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci et à tantôt.